Depuis 2 mois, nos cultes suivent les paroles de Jésus dans le serment sur la montagne. Aujourd'hui, je conduirai le culte autour du texte de Matthieu qui fait la suite de la semaine dernière. Luc s'était servi du dernier verset de Matthieu 5 qui disait « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et il nous a amenés dans la louange vers notre Dieu parfait qui a créé le monde, Dieu bon, fidèle et admirable. Être parfait. Ce concept de perfection a été analysé par plusieurs dans le Nouveau Testament. Le mot grec utilisé est téléios, et ce mot correspond à l'hébreu shalom. Le mot grec est donc rapproché à la paix, à la complétude, à l'harmonie. Sa signification originelle était donc de couvrir tout déficit, de réparer tout dommage. Et Dieu, en créant le monde, a, on l'a vu la semaine dernière, ajouté petit à petit pour créer les choses parfaites. C'est aussi le sens de la dernière parole de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Quand nous lisons donc « Soyez donc parfaits », ce terme peut nous induire en erreur, car il suppose que tout est accompli, que le résultat est d'ores et déjà atteint et qu'il demeure inchangé. Qui n'a pas dit à quelqu'un un jour « C'est parfait, ne change rien ». Oui, mais le terme grec « téléios » implique un processus de croissance. Paul ne considérait pas avoir atteint la perfection, mais il courait vers le but. La perfection, d'après le Nouveau Testament, n'est donc pas quelque chose de statique, et nous l'avons vu avec Jeff dans les ateliers de maturité, c'est plutôt un processus évolutif vers la maturité, et cette maturité se mesure par la ressemblance à Jésus-Christ. Pour le chrétien, être accompli, être parfait, implique de placer sa vie sous l'autorité de Dieu. Le corps tout entier doit être lumière. Et pour être parfait, il faut maîtriser sa langue, il faut de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force aimer Dieu et aimer notre prochain. Pour être parfait, nous devons grandir en maturité, c'est-à-dire grandir dans une communion de plus en plus grande avec celui qui est parfait, notre Dieu. Nous devons avoir aussi cette capacité à mieux discerner la volonté, sa volonté, et à la réaliser par un amour réel, par la joie, par sa paix. Nous qui voulons aussi grandir en maturité et ressembler à Christ, nous pouvons nous lever et chanter ce chant « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême ». Le passage biblique de cette semaine fait donc suite à la fin du chapitre 5, c'est donc le début du chapitre 6. Avant de lire ce passage, j'aimerais le resituer dans le contexte. Donc Jésus est sur la montagne et on est au cœur du sermon sur la montagne. Ce passage est l'articulation entre les enseignements que Jésus vient de faire concernant la relation du croyant vers les hommes dans la vie concrète. Jésus nous a parlé d'être le sel et la lumière, d'être attentif à sa parole, de faire attention à nos comportements, bannir la colère, la convoitise. Il a attiré notre attention dans la relation à l'autre quels qu'ils soient, amis, ennemis. Vous pouvez retrouver ses prédications sur ces sujets sur le site, n'hésitez pas à les lire et écouter. Donc ce passage aujourd'hui fait l'articulation entre tout ce que l'enseignement de Jésus a été sur la relation humaine et maintenant les enseignements concernant la relation à Dieu. Mais bien sûr, quand on parle de relation humaine, Dieu est là, et quand on parle de la relation avec Dieu, les autres sont là. Il y a une relation tripartite entre vous, le Père et les hommes. Cette relation était définie au chapitre 5, verset 16. « De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » Lisons donc les 4 premiers versets de Matthieu 6. « Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vu par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Quelques mots m'ont interpellé dans ce texte. Jésus vient de nous encourager à être parfaits, et maintenant il nous met en garde. Il nous demande de ne pas faire comme les hypocrites. Et j'aimerais de suite m'arrêter sur ce mot qui est central sur le texte, et pourtant tellement, tellement peu dans ce texte. Le Nouveau Testament, ce mot n'est employé que par Jésus. Et il s'applique le plus souvent aux pharisiens et aux scribes. Au temps du Nouveau Testament, le mot hypocrite avait une aire sémantique assez large. Il voulait dire plusieurs choses, mais il n'avait pas le sens courant que l'on donne aujourd'hui en disant que c'est quelqu'un de méchant qui se prétend bon. Ne faisant pas partie de ces significations, il est probable que le sens acteur convienne mieux ici dans le Sermon sur la montagne. En effet, le mot « hypocrite » signifie étymologiquement « celui qui est sous un masque ». En grec classique, l'hypocritesse était avant tout un orateur, puis un acteur. Ainsi, au sens figuré, le mot a fini par s'appliquer à quiconque considère le monde comme une scène où il joue un rôle. Il porte un masque. Il désignait aussi les comédiens, et par extension, celui dont les actes ne correspondent pas à sa pensée. Nous pouvons donc traduire dans ce texte que Jésus parle des comédiens de la religion. Quand nous allons au théâtre, nous savons que les acteurs jouent un rôle. Ils ne trompent pas le spectateur, ils nous racontent quelque chose. Il s'agit d'une convention établie, nous savons que nous allons voir quelqu'un qui joue un rôle. Nous sommes le public. Par contre, l'hypocrite religieux part délibérément du principe de tromper les gens. Comme un acteur, il fait semblant. Mais il fait tellement semblant, et si bien semblant, qu'il donne à voir une personne qui n'est pas vraie, mais fictive, comme dans un rôle, sous un déguisement ou un masque. Tout au long du chapitre 5, Jésus a souligné, il a dit à plusieurs reprises, « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. » Et dans ce qui est dit, souvent, il y a des transformations. Vous connaissez sans doute le jeu du bouche à l'oreille, communément appelé le téléphone arabe. Qui a le message qui arrive jusqu'au bout intègre? Quand nous avons lu le verset 43, par exemple, nous avons appris, et ce que dit Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Alors j'ai cherché dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'il y avait écrit « Tu détesteras ton ennemi ?» Dans Genèse, on voit que Joseph est détesté par ses frères parce que les frères n'acceptent pas ce qu'il va dire. On voit aussi dans Proverbes et dans les psaumes qu'on nous invite à détester le mal, à détester sa propre faute. On est aussi incité à arrêter de détester la connaissance. Et quand je prends Lévitique au chapitre 19, verset 18, d'où est tiré ce commandement, tu aimeras ton prochain, juste au-dessus, il écrit, tu ne détesteras pas ton frère. Tu veilleras à reprendre ton prochain. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les paroles ont donc été transformées, acceptées, et Jésus vient dire non. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Les personnes hypocrites sont tellement persuadées du caractère juste de leur position et de leurs actions qu'ils en oublient leur tort. Le fait que ce soit Jésus seul qui utilise ce mot, il n'y a que lui qui l'utilise dans le Nouveau Testament, et que l'on sait que Jésus a une connaissance unique et parfaite du caractère de l'homme et de ses motivations, me rend et devrait nous rendre réticents avant de juger ce que Jésus nomme hypocrite. L'être hypocrite a une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui. Il cache ses sentiments pour retirer des avantages ou pour nuire à son prochain. Il fait état de qualités qu'il n'a pas. Il y a certainement des masques à faire tomber tout au long de notre vie, mais nous ne pouvons nous occuper que des nôtres et accompagner avec sagesse celui qui se trompe lui-même. Je vous invite à un temps de silence. Remettons à Dieu ce qui est dans nos cœurs. Puis je lirai un poème de Lova Niena sur l'hypocrisie. Après quoi, si vous le souhaitez, vous pourrez élever votre voix dans une prière de repentance, parce qu'il n'y a pas que l'hypocrisie dans nos cœurs qui peut venir troubler. Et je vous renvoie au chapitre 5 et à la relecture de l'Ancien Testament, des commandements donnés au peuple d'Israël. Mais prenons ce temps de silence pour nous-mêmes. L'hypocrisie. Elle s'immisce comme une vipère, et ceux qui ne savent la taire sont les proies qu'elle préfère. Elle peut briser une famille entière. Elle se déguise en conversation sous couvert de quelques observations. Elle déverse ses jugements et réflexions, affectant et empoisonnant les relations. On dit que ce sont eux qui doivent changer. Mais est-ce que moi, de ce côté, n'ai-je rien à me reprocher? Seigneur, convainc-moi si j'ai fauté. Après cette prière, il me rappela qu'elle s'est déjà servie de moi et a fait beaucoup de dégâts. Je regrette d'avoir participé à cela. Désormais avec toi, je veux lutter, que ma langue soit domptée, ne plus jamais participer, que de mon cœur elle soit chassée. Je vous invite à poursuivre ce temps de prière par le chant « Seigneur, fais de nous », que le Seigneur vienne changer nos cœurs et nos vies. Nous revenons sur notre texte et nous en reprenons le premier verset. Gardez-vous ou prenez garde, selon les versions. La mise en garde invite en général à rompre avec un usage afin de créer des formes de vie nouvelles, et ici des formes de vie conformes à l'évangile de Christ. Si on regarde les deux premières versions que j'ai rechoisies, le Louis II, verset 1, nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. » Dans Semeur, on lit « Prenez garde de ne pas accomplir ce que vous faites pour obéir à Dieu devant les hommes pour vous faire remarquer par eux. » Pratiquer votre justice ou accomplir pour obéir à Dieu. Justice ou religion ? Les traductions hésitent ? Non. Justice, c'est sans doute le plus près du grec. Mais dans la mesure où c'est bien de pratiques religieuses dont il est question ici, le terme religion conviendrait également. Il s'agit en fait de rendre justice à Dieu, de faire à son égard ce qui est juste à ses yeux. Mais si on prend la version second 21 ou la version Darby, on lit « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vu par eux. » Faire des dons ou faire l'aumône. En Israël, c'était un devoir sacré. Il ne s'agit pas de solidarité humaine, dans la mesure même où bien des mendiants, infirmes, veuves, orphelins, étaient considérés comme punis par leurs péchés, ou du moins comme exclus de la bénédiction de Dieu. Ils restaient souvent à la porte du temple. Faire l'aumône, il s'agit là d'un devoir envers Dieu qui ordonne cette aumône. D'ailleurs, il n'est pas certain que ce qui est appelé ici aumône n'englobait pas aussi les dons pour le temple. Mais remettons-nous dans le contexte. On annonçait souvent les moments de rassemblement au temple en faisant sonner le chauffard. Ce chauffard, c'est un instrument de musique fabriqué avec une corne de bélier. Des pratiques pour sonner dedans, le son résonnait bien, mais aussi quand on l'utilisait comme tronc, un vertical, les pièces mises dedans tournoyaient et faisaient du bruit. Alors les mendiants étaient là, à la porte du temple, et en ce temps-là, sans protection sociale, l'organisation de l'aumône autour du temple et des synagogues était une des rares démarches d'assistance envers ces défavorisés. Mais Jésus semble agacé par ces matues vues de la religion, même si ces pratiquants étaient également, à leur manière, des témoins d'une forme de fidélité à Dieu dans un monde où leur culte était méprisé et abandonné. Les Romains sont là, à la porte. La difficulté, donc, ici, dans ce texte, est ailleurs que dans telle ou telle pratique. Elle est dans le fait que tout usage, parce qu'il est usage, est ambivalent. Cet acte de fidélité, ce don généreux, cesse de l'être dès lors qu'il n'est plus adhésion spontanée à Dieu, mais qu'il devient ce qu'il convient de faire devant les hommes. Si je fais parce que tout le monde le fait, pour être en règle peut-être, en accord avec la société dans laquelle je vis, alors j'ai ma récompense humaine. Comme ailleurs dans les évangiles, les paroles de Jésus interrogent l'homme, et le croyant en particulier. Il nous interroge sur notre engagement total envers Dieu, sans ambiguïté, ni calcul terre à terre et immédiat. Il nous appelle à ne pas jouer sur les deux tableaux, ce qui peut conduire dans des désillusions. Il nous appelle aussi à obéir en relation étroite avec sa parole, avec sa volonté. Alors aujourd'hui, comment est-ce que je veux donner pour obéir à Dieu ? Comment est-ce que je peux donner pour obéir à Dieu ? C'est dans ce temps des offrandes que nous allons rentrer maintenant. Offrir au Seigneur ce que je suis, c'est le remercier pour ce qu'il me donne d'être, de vivre, d'accomplir. Offrir au Seigneur ce que j'ai, c'est lui rendre la meilleure part de ce qu'il me donne. Alors, quand nous ferons circuler le pochon, si notre main ne met rien à l'intérieur, si elle y met un chèque à plusieurs zéros, peu importe, personne n'est là pour regarder, ni même le trésorier, ni même le comptable. Il n'y a que la feuille au fond de l'église qui peut nous dire si nous sommes ensemble conformes à notre engagement, au projet budgétaire que nous avons fait. Tout le reste, C'est une relation entre Dieu et moi, entre Dieu et vous. D'ailleurs, le verset 3 nous le dit aussi. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est là une expression proverbiale que l'on trouve également chez des auteurs classiques et rabbiniques. Mais la coutume qui a donné naissance à ce proverbe n'est pas connue. Sauf peut-être l'habitude générale de donner l'aumône avec la main droite qui était considérée comme plus convenable que la donner avec la main gauche. Notre coutume existait aussi pour marquer son accord. On plaçait à ce moment-là les doigts de la main droite parallèlement sur les doigts de la main gauche et on les frottait pour dire d'accord, d'accord. C'était un signe où l'on se mettait ensemble, d'accord, pour conclure une affaire, pour s'engager ensemble sur un projet. Donc l'idée ici serait que lorsque l'on donne l'aumône, ce n'est pas un cas où l'on met nos deux mains pour être en accord, pour s'accorder avec quelqu'un d'autre. C'est une affaire strictement privée de celui qui donne. Alors c'est devant Dieu que nous nous plaçons pour donner ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous voulons et ce que nous pouvons. Et lui offrir ce qui lui revient, parce que lui seul est digne. Et je vous invite à vous lever pour prendre ce chant. Toi seul es digne. Le mot récompense apparaît 3 fois dans ce texte. Et même si le judaïsme tendait à élaborer une relation mathématique entre les œuvres et la récompense, il réalisait cependant que la dite récompense était essentiellement une expression de la grâce de Dieu. La récompense, c'est le salaire dû à l'ouvrier pour le travail qu'il a fourni, pour lequel il a donné son énergie, pour lequel il a souffert peut-être. Jésus nous a dit au verset 12, chapitre 5, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » Les hypocrites ont reçu la gloire qui vient des hommes, ils ont leur récompense. Quelle récompense cherchons-nous ? Jésus, lui, savait qu'il allait souffrir à cause de ses hypocrites, à cause de mon hypocrisie. Nous voulons regarder à Jésus, regarder au Père. Nous avons offert notre louange. Nous avons demandé pardon pour notre hypocrisie, pour tout ce qui vient noircir notre cœur. Et nous voulons grandir en ressemblance à ce que Jésus est et à ce qu'il nous a appris pour avoir cette récompense au ciel. Aujourd'hui, nous savons que Jésus est ressuscité et qu'il nous a envoyé son esprit. Et que c'est par sa grâce que nous sommes là ce matin. Mais Jésus savait que nous aurions besoin d'aide pour nous souvenir régulièrement de sa mort sur la croix, pour le pardon de nos fautes. Alors en plus du témoignage des évangiles, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, a pris du pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il l'a rompu en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Demain après le repas, il a pris la coupe et il a dit « Cette coupe, la nouvelle alliance scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Ce matin, nous nous souvenons de ce que Christ a accepté de souffrir pour nous. Par ce geste qu'il nous a laissé, nous allons prendre ce pain et ce jus de raisin en souvenir de sa mort sur la croix pour nous. Si vous ne croyez pas profondément du fond de votre cœur dans le sacrifice de Christ pour vous, pour votre vie. Faites simplement passer les éléments à votre voisin. Mais si vous croyez que Jésus-Christ est venu pour changer au fond de votre cœur et qu'il est venu comme votre Seigneur et Sauveur, alors librement, prenez ces éléments en souvenir de lui. Je vous invite à vous lever à votre place et quand les musiciens seront prêts, ils nous accompagneront dans le chant. Tu es venu jusqu'à nous. Voilà, nous avons parcouru ce texte en diagonale. Nous aurons l'occasion, en groupe de maison, de reparler et de partager sur ces versets. Alors, il y a un groupe de mots du texte d'aujourd'hui qui m'a interpellée et dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est celui qui dit « claironner » ou « sonner de la trompette ». Que voulons-nous claironner au monde ? Comment voulons-nous faire sonner nos voix pour que le monde sache ce que nous vivons dans l'amour, la joie, la paix que Dieu dispense ici au milieu de nous ? C'est une question que je vous laisse en suspens ou à laquelle je vous invite à répondre en chantant « Toi, lève-toi ». Béni par l'Éternel qui fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Sachons la faire prospérer. Bonne semaine, mais restez avec nous quand même.